Bonsoir, bienvenue à vous deux sur l'espace Ferrarock. Merci donc à deux des Dionysos de nous avoir rejoints. On ne s'est pas croisés depuis longtemps. On est très heureux que ce nouvel album soit encore une fois couronné de succès, que la tournée qui l'accompagne soit sold out. Honnêtement, ce n'était pas un album super facile. C'est vrai qu'on l'a écouté avec beaucoup de plaisir. On s'est dit que vous ne changiez pas et que même alors qu'il y avait un succès phénoménal, vous étiez encore capable de prendre des risques. C'est aussi ça qui nous a plu. Et aujourd'hui, en voyant que le public vous a suivi encore une fois, même sur cet album qui est un peu poil à gratter par moment, ça vous fait plaisir, forcément.
Ouais, ouais. Carrément. Enfin, en tout cas, nous, on n'essaye pas de faire des disques qui soient... plus accessible ou moins accessible, on rentre pas dans des considérations comme ça, on essaie juste de faire ce qui nous plaît et nous fait vibrer le plus. Alors ça peut aller de choses légères à des choses mélancoliques, des choses sombres, et voilà, on se pose pas la question plus loin. Et après on le donne le plus généreusement possible, voilà, comme ça j'ai tué le téléphone et ça ira mieux. C'est ça le but du jeu pour nous, quoi. Surtout pas de commencer à se dire oulala, ça c'est trop sombre, alors au contraire ah oui ça c'est bien, parce que c'est un peu des gens pas très intelligents nous ont demandé après Haïku de faire un Coccinelle numéro 2, après Jedi on nous a demandé de faire un Jedi numéro 2.
Mais c'est vrai aussi que c'est ce que les gens attendaient plus ou moins dans l'inconscient.
S'en fout. À partir du moment où tu commences à faire ce que les gens attendent, c'est exactement le moment où tu ne les respectes plus. Pour moi.
Après, tout à fait honnêtement et de façon très personnelle, je trouve que pour les gens qui ont lu ton ouvrage, cet album résonne d'une façon tout à fait particulière, avec une mise en perspective que les gens qui connaissent exclusivement le disque ne perçoivent pas ou pas de la même manière.
Oui, je suis d'accord.
Ce double niveau de lecture. Vous y avez aussi forcément pensé à...
Bah en fait, ça aussi, ça s'est fait de manière... je ne me suis pas dit, voilà, je vais faire le livre. Le fait est que je les ai écrits ensemble, les chansons et le livre. Et que quand on s'est mis à commencer à répéter, la première chanson qu'on a bossée, c'est Giant Jack. Donc j'ai inclus bien le groupe dedans, vu que je leur ai expliqué un petit peu le fonctionnement du truc. Et pour moi, on peut vraiment écouter l'album sans... avoir lu le livre, et on peut complètement lire le livre sans avoir écouté l'album, mais c'est clair que quand on a les deux, c'est mieux. Mais pour moi, c'est un peu le même rapport qu'un live et un album. Quand on aime vraiment un disque, quand on va voir sur scène et qu'on n'est pas déçu, qu'on a aimé le concert, on revient, on n'écoute plus le disque de la même manière. Et je pense que c'est toujours valable pour nos concerts et nos disques, mais que quand on a lu aussi le bouquin, forcément, comme tu le disais tout à l'heure, ça donne une autre dimension.
Est-ce que vous mesurez la chance que vous avez en France, vu... Être artiste en France, c'est quand même assez difficile. Vu les premiers enregistrements que vous avez faits il y a très longtemps avec My Sticky Hair, Stuck Onto My Very Long Nose, etc., qui était assez agressif et tout, le luxe que vous avez aujourd'hui de pouvoir faire ce que vous voulez quasiment.
Tout à fait, on a tout à fait conscience de ça et on se bat pour maintenir ça tous les jours. Mais pas comme un truc laborieux aussi, des fois c'est chiant, mais on sait pourquoi on le fait. Si on le fait toujours et qu'on se régale autant de le faire, c'est parce que ça a vraiment un sens. Complet. Mais après, j'ai tout à fait. Je sais d'où on vient, je sais où est notre culture, où sont nos références, et je n'oublie pas les gens qui nous ont fait confiance dès le début. Pas une seule seconde. On sait exactement d'où on vient. Et voilà, qu'on fasse un disque d'or, qu'il y ait de la radio ou machin, ça ne changera jamais rien. Et si ça commence à changer, c'est qu'il faut aller se coucher.
Mais cette chance, c'est un travail. Et. Quel conseil vous donneriez à tous ces gens qui aujourd'hui, la scène française aujourd'hui est ultra riche, il y a des tas de groupes intéressants qui vont buter sur tous ces archétypes que vous semblez plus ou moins avoir évité à un moment, et ne serait-ce que des fois en aidant certains, Sears vous l'avez un peu mis en avant et il commence à faire son petit chemin, mais il y en a plein d'autres qui restent dans l'ombre partout, et vous, quel a été le déclencheur de cette chance, parce que la chance ça se travaille, quel a été le déclencheur qui fait qu'aujourd'hui tu fais un truc récemment avec Johan Sfar à la Maroquinerie, enfin vous avez une liberté de ton, ça semble en tout cas de l'extérieur, racontez-nous un peu de l'intérieur.
Il n'y a pas vraiment un déclencheur, c'est une succession de choses. Ça fait 13 ans qu'on existe, on a fait beaucoup de concerts, on a rencontré beaucoup de gens, et on a enregistré beaucoup de disques parce qu'on a eu envie de partager plein de choses. Sans savoir vraiment la musique, on a commencé à faire un groupe. Sans savoir comment ça se passait un enregistrement, on a fait un album au bout de 3 ans par nos propres moyens sur un tout petit label. Et il y a eu des étapes comme ça, comme par exemple Jedi pour Western, où on a senti qu'on avait un petit palier était passé, quoi. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été un gros truc déclencheur. Ça, c'était très, très progressif depuis le début. Et puis... ce qui concerne les conseils qu'on donnerait, justement, c'est n'écoutez pas ce qu'on vous dit, c'est restez personnel et faites ce que vous avez envie de faire, parce que nous, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'est la meilleure des choses à suivre, n'écoutez que vous, quoi.
C'est clair, parce que si tu commences à écouter ceux qui vont te dire « Ah ouais, non, mais il faut sonoriser comme ça, il faut faire méchant. » Il y a toujours des mecs qui veulent te remettre dans une espèce d'orthodoxie. Alors moi, j'ai rien contre les choses classiques. Il y a des choses qui sont classiques et belles. Faut pas, si tu veux faire absolument original et absolument décalé tout le temps, c'est une autre forme d'orthodoxie. Mais il faut juste faire exactement ce que tu veux. Si ton trip, c'est de faire un truc super classique, fais-le. Mais voilà, quoi. Il faut y aller avec la passion. Et ça ne suffit pas toujours, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais au moins, après, tu regrettes rien. Ça marche ou ça marche pas. Donc si tu commences à essayer d'un peu transiger... si ça marche, tu seras pas heureux pour les bonnes raisons. Si ça marche pas, tu seras encore plus dégoûté. Donc, il faut y aller avec les tripes. Point barre, quoi.
Et comment on fait pour avoir la même niaque et la même patate sur scène? Lorsque moi je vous ai vu dans un tout petit festival à Annecy, vous étiez tout en bas dans une toute petite scène, et on vous voit aujourd'hui sur des grandes scènes, et il y a toujours la même niaque, la même fureur, la même envie.
Tu l'as dit.
Qu'est-ce qui fait que entre vous il y a encore cette flamme? Il y a un secret. Alors le secret, c'est pas la Bible.
On se remet tout le temps en cause et on sait aussi se reposer. C'est qu'entre entre deux concerts, entre deux tournées, entre deux albums, on a une certaine forme de travail. On est vraiment super impliqué dans tout ce qu'on fait, mais on sait aussi qu'il y a des moments où il faut qu'on se relâche, il faut qu'on se repose. Quand on a arrêté de tourner sur l'album d'avant, on s'est posé pendant 4 mois et puis on est parti. On a eu la chance de partir composer au Maroc en pleine liberté, tout seul. On nous avait filé les clés d'un théâtre pour remettre un petit peu les choses. Remettre les compteurs à zéro, repartir de rien et se retrouver des choses, se faire plaisir, quoi, simplement.
Pardon, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que vous avez progressé tous ensemble? Parce que moi, je me souviens, je ne me souvenais pas que ça faisait 13 ans, ça me fait très très peur quand tu l'as dit.
Enfin, les premiers enregistrements que tu as pu avoir, c'était il y a quoi, 7-8 ans?
96.
Non, parce que 97. La première fois, je crois que je vous ai vu
c'est
sur
la première
scène,
maquette avec l'omelette, avec l'œuf au plat. Là.
Ça, c'était déjà 98, c'est déjà le deuxième album.
Il n'y avait pas encore, véritablement d'enregistrement les toutes premières fois où je vous ai vu sur scène. Ouais. Et où c'était. On sentait une énergie terrible. Et puis, pour vous avoir vu périodiquement, alors pendant une décennie, c'est infernal, ça. Alors, chaque fois on a l'impression des salles plus grosses, la même niaque, le même charisme aussi pour Mathias, et puis une technicité, quoi, qui se forgeait entre vous et qui aussi, je pense, vous a permis un, de ne pas vous épuiser, deux, de ne pas aller trop vite, et puis trois, de rester zen et sûr de vous, quoi, cette espèce de complicité aussi musicale qui fait qu'ensemble vous avez appris, quoi.
Je rajoute aussi la niaque pour tout le groupe, au fil du
tout
temps.
Tout à fait.
Parce qu'au début, c'était Mathias un peu le moteur, comme ça, qui lançait tout le monde.
Je crois pas. Pas
musique. Mais après, c'est avec les yeux qu'on voit ça.
Tout le temps. Enfin, tout le temps, après, tout le monde se trouve plus ou moins à sa vitesse avec son histoire à l'intérieur du groupe. Mais je crois que si moi, j'arrive à... T'as l'impression que je suis un moteur, c'est aussi parce que eux me poussent derrière. C'est un échange qui est continuel, quoi. C'est hyper important.
Il y a eu un set un peu showcase à la fin de l'année dernière dans une petite salle parisienne où vous montriez pour la première fois quasiment vos titres.
C'était
au point éphémère.
La fête Barclay.
Ouais, voilà. Et le principe du truc, c'était un groupe arrive, joue trois ou quatre. La grosse impression que ça a fait, je crois, c'est quasiment sur tout le monde ce soir-là, c'est que c'était on-off. Vous êtes monté, c'était déjà à bloc. Mmh. Et pendant quatre morceaux, vous avez tout livré. C'est quand même super rare par rapport à un groupe. Vous êtes directement tous en puissance. Est-ce que vous réalisez ça ou est-ce que c'est...
C'est un truc qu'on recherche. Enfin, pas forcément d'être en puissance, mais on essaye. Et ça ne veut pas dire qu'on y arrive à chaque fois. Mais en tout cas, de monter sur scène. Et quand on monte sur scène, d'être déjà dedans. De ne pas entendre que le public soit super ou que le son soit super ou que On n'attend pas ça. À partir du moment où on monte sur scène, avant même qu'il y ait la première note, on est déjà, on s'est mis dedans, quoi. On s'est vraiment mis dedans. Et des fois, on n'y arrive pas. C'est le jeu, c'est le truc. Mais en tout cas, on fait tout pour, systématiquement.
Et quand dans des cas comme ça, c'est presque un faux public. Je rapprocherai ça de votre performance aux Victoires de la Musique. Est-ce que vous vous rendez compte de l'air effrayé que peuvent avoir les gens au premier rang en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne m'attendais pas à ça, pas si vite. »
Des fois, ça peut être drôle. Par exemple, là, on a fait un truc super rigolo. Les Louise Attaque nous ont invités à leur Zénith pour faire la reprise de Blur qu'on fait en ce moment ensemble quand on se croise dans les festivals et tout ça. Et ils nous ont dit juste le jour même, et finalement, si vous faisiez un morceau, on ne vous présente pas, vous arrivez en rappel à notre place.
Dans le noir.
Tu vois, le truc à la fois qui est hyper généreux de leur part, couillu de leur part, parce que ça peut complètement niquer le rythme de leur concert pour le public et même pour eux qui, pendant un morceau, ne font plus rien. C'est quand même hyper étrange. C'est le Zénith, quoi. C'est pas on joue devant 200 personnes pour rigoler un bœuf. Ils nous ont proposé ça. Donc, nous, on a joué le jeu. Et là, la surprise des gens en premier rang, à la fois des fois des mecs qui nous connaissaient, qui faisaient genre waouh, et les mecs super étonnés, genre mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'était super drôle. Là, moi, je m'en suis vraiment rendu compte, quoi, qu'il y avait. Les gens, ils se demandaient ce qui se passait, quoi. Et ça, c'est super drôle. Aux Victoires, non, c'est tellement un coup de speed. Les télés, comme tout à l'heure, là, quand on a fait 20h10 pétante, tu te rends pas compte trop de l'effet que tu as, en fait. C'est quand les gens, après, te disent des trucs. C'est juste, nous, on essaye, au maximum, à chaque fois qu'on fait une télé, d'être en phase avec ce qu'on peut être sur scène. C'est-à-dire de refuser les PBO. Les PBO, c'est les playbacks, c'est-à-dire où tu fais semblant de jouer, les plans comme ça, pour que voilà, que ça soit pas de l'escroquerie.
Ah, on revenait sur les Victoires. Ça mène aussi à dire que votre parcours, il a pas toujours été que linéaire, tranquille, mimille. Ça monte et ça continue de monter. Parce qu'il y a eu changement tour management, changement de maison de disque, ouais. Qui sont arrivés à des périodes qui n'étaient pas forcément faciles. Non,
carrément, parce qu'on s'est retrouvé en fait à mixer le live, ouais. À faire de la prod exécutive avec Mike ici présent, ouais. À essayer le moment où Tréma pliait boutique.
Voilà, ouais.
Et nous, on s'arrachait pour sortir ce live parce qu'il nous tenait hyper à cœur. On avait, c'était une galère sans nom pour parler techniquement. On a payé nous-mêmes l'étape de retour pour pouvoir enregistrer le live. Enfin, c'était un truc complètement aberrant. Et on s'est démerdé avec Johan Sfar qui a été super, récupérer les photos avec Olivier Wetzel qui a fait aussi le live des Mickey. Mais on a tout débrouillé. On voulait mettre un partage des Eurocaines la veille, il n'y avait pas les autorisations. Enfin, c'était vraiment un truc. Et on l'a fait à la Niac. Et bon, c'est vrai qu'en plus pour moi c'était compliqué parce que je venais de perdre ma mère. Donc c'était à la fois la meilleure chose qui pouvait m'arriver de bosser sur quelque chose que j'aime avec les gens que j'aime. Mais en même temps, il y avait une fatigue, quoi, quand même. Un truc nerveusement qui n'était pas facile. Et pendant ce temps, Ryder qui nous a extrêmement bien aidé, qui nous a mis plus que le pied à l'étrier au début, qui commençait à partir vers d'autres centres d'intérêt et qui fait un truc absolument mystérieux et apparemment trop bien là-bas au Moyen-Orient.
On le voit régulièrement, hein, Ryder qui fait de la production de jeunes artistes palestiniens.
C'est un mec incroyable.
Il travaille aussi dans une ONG là-bas.
Voilà, ouais, et c'est vraiment un truc très compliqué et qu'il prend à fond.
Il c'est toujours un peu mystérieux, quoi. Et le fait
c'est
est
Ryder
que bon.
En même temps.
On est toujours. Enfin, je pense qu'un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, il reviendra dans l'histoire. On ne sait pas encore comment, mais. En tout cas, il s'est éloigné, donc il a fallu un peu se débrouiller un peu tout seul. Le contrat d'édition était terminé. Comme il était aussi notre tourneur, on s'est retrouvé avec rien. Et en même temps, avec quand même un beau succès sur l'album, donc on n'était pas non plus, n'était pas à la rue, quoi. Donc il y avait plein de belles choses, et en même temps, c'était un peu le saut dans le vide, genre ça y est, on a fait les lives, on a fini la tournée. On veut surtout pas devenir des fonctionnaires du rock, on veut pas enquiller bêtement. On veut que ça ait un sens de faire un disque, ça a un sens de revenir sur scène. Et là, on a été bien aidé par Claude Guyot du Fer qui nous a.
Donc, qui vous accompagne depuis. Enfin, vous connaissez depuis très longtemps. Hein,
qui nous a accompagné depuis très longtemps avec le Fer et qui a été vachement bien à cette époque-là, qui nous a beaucoup déçus ensuite par la suite et qui a fait des choses absolument immondes et qui nous a pourris partout. Et je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus traumatisé depuis l'histoire du métier, quoi. L'attitude qu'elle a eue, c'est tout simplement. Je ne lui pardonnerai jamais et je défie tout le monde, quelqu'un de rester manager, de la prendre en management. Elle est très très forte pour faire le faire, mais surtout gardez-vous de la prendre en manageuse Vraiment, c'est une hystérique, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça n'enlève en rien le travail génial qu'elle fait pour le faire et ce qu'elle a fait pour nous à un moment donné, je ne l'oublie pas. Et c'est des périodes qui sont très très difficiles et je crois qu'il faut être très soudé. Et je crois qu'on l'est toujours et c'est pour ça qu'on a cette niaque dont vous parlez.
Ouais, le côté, ce que tu évoques, c'est-à-dire voir aussi notre couleur des gens, c'est vrai que. Je veux dire, c'est aussi très facile aujourd'hui de dire Dionysos, ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont formidables, ils sont plein de talent. Enfin, je veux dire, t'as plein de potes, tu vois.
Non, mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des passionnés. Donc, on n'est pas des gens qui aiment tout le monde et qui aiment. On est des gens. On n'est pas des agressifs. On n'aime pas attaquer. Mais faut pas venir nous casser les couilles parce qu'on fait les choses de manière le plus généreusement possible et le plus passionné. Et on a tout à fait conscience du privilège et de la chance dont tu parlais tout à l'heure. Mais après, faut pas venir, tu vois.
Ce que je voulais dire, c'est que t'as une pression, quoi, que t'as pas dans la vraie vie normale, quoi.
Ah, mais c'est clair.
T'as plein de gens
c'est
autour qui n'aiment que toi, même quand ils te connaissent pas.
Mais bien sûr que non. Ça. Mais heureusement, ça serait catastrophique. On est des êtres humains normaux avant tout, qui s'expriment avec leur sensibilité, leurs qualités, leurs défauts. Et voilà, quoi. Et on assume complètement ça, quoi. Et heureusement, j'allais même dire que c'est cette perplexité-là qui nous motive aussi, quoi. Si on commençait à devenir, faire du Dionysos, qui fait du Dionysos, il y a des personnes pile là où on attend et tout ça machin, ça deviendrait mais pathétique quoi. On n'est pas là pour ça.
Dionysos, cet été aux Eurockéennes avec un projet bien particulier. Alors est-ce qu'on peut avoir quand même comme ça quelques ouvertures, savoir ce qui va se passer? Parce que Aitono, on fait leur truc et vous?
Nous en fait on va bosser avec l'orchestre de la Sinfonietta de Belfort, c'est un orchestre de l'école de musique de Belfort, 60 musiciens dont une chorale de 20 personnes, il y a des cordes, des cuivres, des cloches tubulaires et c'est un projet qui a été monté par les Eurockéennes qui nous ont proposé ça, ils avaient fait ça l'an dernier avec Émilie Simon. Et c'est génial qu'on a commencé à répéter avec eux en février dernier à Belfort et en fait ils ont revisité avec un arrangeur de cordes, revisité nos morceaux et on a répété ensemble le groupe d'un côté et de l'autre et on partageait plein de choses. Et on va faire un concert à Belfort avec eux et le Zénith en octobre à Paris avec eux aussi.
Est-ce qu'un jour il va y avoir un tambour Dionysos?
C'est possible.
Ou il va y avoir comme ça une espèce de silence radio?
Il y a eu quand même un peu long entre les lives et Monsters in Love.
Ouais, et c'est toi, possible. Toujours en activité quand même. Hein.
Parce que j'ai fait le bouquin entre temps et la prod d'Olivia Ruiz. Et voilà quoi, mais je sais pas s'il y a besoin, oui.
Bah tiens, question toute bête, mais là, l'histoire de la production avec Olivia Ruiz, comment que ça se passe? Tu la rencontres dans un bistrot, elle a aimé ta musique.
C'est le truc le plus simple du monde. Un copain qui bossait pour nous chez Tréma et qui bosse pour elle et qui me file le disque avec Sud Arthur H. Et j'écoute et je fais putain, il y a vraiment des trucs qui me plaisent. Et je vais la voir en concert et je fais waouh. C'est une petite piaf là, comme ça, je suis hyper surpris, c'est pas forcément dans le truc que j'attends. Je devais lui faire un clip, on n'a pas pu le faire, on s'est reparlé. Je fais un petit arrangement pour justement les Victoires de la Musique l'année dernière, pour son morceau J'aime pas l'amour qu'elle avait beaucoup joué. Et ça lui a plu, et du coup on est parti sur la prod du disque, enfin la co-réalisation avec Alain Cluzeau.
Moi je vais finir avec une dernière question, je vous ai vu récemment encore une fois à la télévision avec les Louise, où là vous êtes parti dans une impro
éclaté.
Avec Nagui, ouais. Il a chanté Taratata. Et puis vous êtes parti sur les sièges pour parler. Nagui t'a posé une première question, t'as commencé à discuter, et puis paf, ça a été coupé. Où tu parlais du soutien des Louise qui vous avait amené
oui,
un peu comme
ouais,
ça.
Tout à fait.
Est-ce que des fois on n'est pas un peu sevré parce que
bien voilà. Sûr, mais bien sûr, c'est vrai que nous on vient pas de là, on vient de la scène, des petits concerts, des trucs. Et la télé pour nous c'est un truc qui nous fait rire en fait, parce que. C'est tellement, je crois que l'exemple le plus incroyable, c'est Top of the Pop. Mais tout est en toc. Personne chante en vrai.
Bah, elle est belle.
Hein ?
Elle est belle. Je sais plus.
Elle est marocaine.
De la présentatrice.
Ah
elle
oui,
est
oui.
Belle.
Elle est marocaine.
Ouais,
bon,
pour moi, elle est pas toc.
Ouais, mais elle est pas toc, mais en même temps, je veux dire, rien n'est vrai. Elle fait, par exemple, ses speeches. Elle ne les fait pas quand les gens jouent et sur le truc, elle présente ou quoi. Elle fait ses speeches les uns après les autres, écrit comme ça, pendant un quart d'heure, elle se casse. Elle est pas là quand ça joue. Le décor, tu le pousses, il tombe. T'as l'impression, comment c'est filmé, qu'il y a 150 ou 300 personnes, il y en a 15.
Bien sûr.
Et c'est... Alors peut-être que les gens vont m'écouter et vont dire, mais, bah, c'est normal, c'est de la télé. Mais moi, je n'arrive pas à m'y faire parce que j'ai vraiment l'impression que c'est, que c'est pas vrai, quoi.
Mais est-ce qu'en même temps, c'est pas...
Mais en même temps, ça nous fait... on y prend du plaisir. Hein.
Top of the Pop, vous y êtes passé parce que vous aviez beaucoup vendu et que c'est, tu vois, en fonction des ventes et tout ça. Donc, est-ce que ça fait pas partie de la règle du jeu, quoi,
mais on s'est marré, mais ouais. Il a fallu qu'on a un très bon régisseur, une équipe technique qui nous permet de faire les choses super bien.
Il y a un bon catering.
Parce qu'en même temps, soit c'est une émission qui est
Super... on l'a fait en live, on est très très peu à les faire en live.
C'est super rigolo parce que tu peux voir Dionysos et après tu as un truc de variété, mais au-delà de la variété, quoi.
Oui, au-delà, ouais. Bien au-delà parfois.
Ouais, et après, moi j'ai vu Lofofora aussi, qui joue en live aussi et qui hallucinait, je pense, autant que vous.
Mais c'est drôle, quoi, mais je pense qu'il faut... Voilà, il faut considérer que bon, c'est pas notre monde.
Mais ça après, fait partie du métier.
Ça fait partie du métier. Ouais. Et nous, on a un débat qui est. On se pose la question sur chaque émission. Où est-ce qu'on se situe là-dedans? Est-ce que justement, de le faire, c'est génial parce qu'on se dit, sans prétention, sans délirer, on montre aussi que, voilà, il n'y a pas que Amel Bent et truc. C'est même pas juste. Ouais, Dionysos, c'est genre une certaine idée de l'alternative en tout cas. Soit, si on y va, on fait un compromis. Et des fois, la nuance entre les deux, elle est super fine, quoi. Et nous, notre base là-dessus, c'est est-ce qu'on peut jouer en live? Est-ce qu'on peut jouer pour de vrai? Et à partir de cette base-là, même à Top of the Pop, même si c'est tout en plastoc, eh ben, on a joué en live, on a fait le morceau comme on est, et on a été fidèle à ce qu'on peut faire sur scène. Donc, à partir du moment-là, on trouve que ça reste cohérent.
Voilà.
C'est allez, la scène, on vous y retrouve très vite, à Bourges, et puis tout l'été, forcément.
Encore tout l'été? Oh non.
Avec toujours la même envie, le même
plaisir. Non, Mathias, va, Benny Kassim, s'il te plaît.
Mais on y va, on y va. On joue avec, on joue avec l'orchestre à cordes, là-bas.
Parce qu'en plus, on s'est vu là-bas, on s'est croisés.
Je m'en souviens très bien.
En tant que spectateur.
En 98, c'était terrible, le même jour, j'ai vu... Mogwai, Björk, Pete Harvey, Sonic Youth, Sinner Sticks.
Alors juste, ça...
T'auras la chance d'aller backstage.
Eh ouais.
La piscine. La piscine.
Pareil.
Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci Dionysos.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et on va rien couper.